Accent d'Europe, Catherine Potet.
Bonjour, un film redonne espoir aux amoureux des langues régionales. Bienvenue chez les Ch'tis, remet au goût du jour la langue picarde, menacée de disparition aussi bien en France qu'en Belgique. Nous irons aussi en Italie, où là, en revanche, les langues régionales n'ont pas besoin d'être défendues car elles sont toujours couramment utilisées. Au sommaire également, un reportage de la Deutsche Welle dans la plus grande gare de Berlin, qui est désormais entièrement accessible aux personnes handicapées. Et puis, de nouveau rendez-vous dans Accent d'Europe. Tout d'abord, un rendez-vous plus particulièrement destiné aux jeunes Européens. Études, voyages, travail, loisirs, nous essaierons de vous donner toutes les informations utiles et nécessaires. Aujourd'hui, nous parlerons de la mobilité professionnelle. Accent d'Europe vous proposera aussi chaque jour une escale dans une capitale européenne pour découvrir ce qu'on peut y voir, y faire, exposition, concert ou lieu original. Dans quelques instants, Christine Dupré nous fera découvrir un club alternatif de Prague. Enfin, sachez qu'Accent d'Europe accueille de nouveaux partenaires, puisqu'à RFI et la Deutsche Welle se joignent désormais la RTBF, Radio Prague et Radio Roumanie Internationale.
Richard Asner, Alfred Gardel, tout le monde le sait, hein, c'est dedans. Mais personne ne le dit.
C'est comme les Américains avec le coco. De quoi ? Coco-Colo. Ah, le Coca-Cola.
Vous savez ce qu'il vient de dire ? Coco-Colo.
Plus de 15 millions de spectateurs, bienvenue chez les Ch'tis. Le film de Daddy Boon bat presque tous les records d'audience en France. Un film où c'est une langue régionale, le Picard, qui tient le premier rôle. Alors que cette langue semblait plus ou moins en voie de disparition, on se souvient tout à coup qu'entre la France et la Belgique, on compte plusieurs millions d'utilisateurs potentiels du Picard. Reportage en Belgique de David Golin et Jean-Pierre Rapsat de la RTBF.
Je viens de dire, elle fait qu'il y a fait d'HPI ici, d'HPI de chez Belge Picard, d'HPI de chez Wallon Belge Picard.
La langue picarde que certains enterrent depuis près de deux siècles est toujours bien vivante. Elle compte un public potentiel de 6 millions d'habitants sur un domaine linguistique grand comme la Belgique. Bruno Delmotte, animateur de la Maison de la Culture de Tournai.
C'est transfrontalier, donc en Belgique, ça comprend à peu près les deux tiers de la province de Hainaut. Donc Comines, Moucron, Tournai, le Pays des Collines, le Zat, Péroué, le Mons-Borinage et une partie de la Botte du Hainaut. Alors en France, on a tout le Nord-Pas-de-Calais, sauf la petite partie qui est flamandophone entre la Lys et Dunkerque. Et alors la Picardie, qui comprend la Somme, l'Aisne et l'Oise, c'est toute la Somme, une grosse moitié de l'Oise et une petite moitié de l'Aisne. Donc c'est limité au nord par le flamand, à l'ouest par la mer, à l'est par le Wallon et le Champenois, au sud par l'Île-de-France et la Normandie.
Je vais vous raconter le futur simple que j'ai une histoire. Quelque hommage tout bellement.
Une langue picarde qui aujourd'hui encore garde un petit goût d'insolence, de contre-pouvoir, de fierté. Originaire du pays minier du nord de la France, enseignant, poète et chanteur, Pierre Delannoy se souvient.
L'autorité nous obligeait à parler français, nous interdisait de parler notre langue. C'est comme si on disait maintenant aux gamins, t'as pas le droit de parler ou en verlan ou avec ses SMS à faire... à l'époque c'était ça. Donc nous, on prenait le contre-pied de l'autorité.
Qui sont ses compagnies et mineurs qui a l'hôte sous terre fait roche dure la beurre au pic à l'rivelaine rassaqué hoche carbon.
Le Picard, une langue qu'on n'oublie pas, même si elle est aujourd'hui en danger. Rose-Marie François, originaire de Beaudour, est poète, enseignante, philologue, rhapsode et romancière. Le Picard lui a donné le goût des langues. Elle en pratique aujourd'hui une quinzaine.
Je pense que c'est à partir de l'interdiction de parler le Picard quand j'étais gamine. J'ai eu une punition, j'ai dû écrire 10 fois « je ne peux pas parler patois ». Ça a éveillé ma conscience du bilinguisme ou de la diglossie.
Le Picard est en danger, selon vous ?
Ah, cher ami, signé avec le Picard. Je pense que toutes nos langues européennes sont en danger. Pour moi, le combat pour le Picard est à la fois le combat pour le français et pour nos langues européennes.
Vous voyez bien l'enfant de la maternelle déjà apprendre le Picard aujourd'hui.
Mais pourquoi n'y aime, vieux ? Le Picard, c'est une belle langue. Le Picard, c'est une culture.
La prise de conscience d'une picardité a lieu aujourd'hui dans tous les domaines de la création, avec un succès foudroyant parfois, comme lors des traductions de certains Tintin, Martine ou Astérix en Picard. Alain Damson est l'auteur d'un Nassimil et avec deux amis, le traducteur de deux Astérix.
Le premier en 2004 a été un record de vente, toutes catégories confondues. Il y en a plus de 100 000 qui sont partis en quelques mois. Ça n'avait jamais été fait jusqu'alors. Donc on a certainement rencontré un public à la fois de Picardisans, de gens peut-être un peu âgés qui étaient contents de retrouver leur langue dans un contexte inhabituel. Et puis en même temps, je pense qu'on a touché un nouveau public plus jeune. On a touché des enfants, par exemple, auxquels les parents ou les grands-parents faisaient comme ça redécouvrir leur langue régionale.
L'histoire est chifflouite, est chifielleux, et du grand Baptiste que je vais chez vous raconter, c'est une histoire des pains chauneux.
Daniel Barbès le chante, l'écrit, le conte et fabrique des livres.
Je vais beaucoup dans les écoles maintenant raconter des histoires aux enfants et souvent j'ai des réactions d'instituteurs qui me disent bah, les enfants comprennent plus le Picard, les enfants parlent français. Et puis je fais l'expérience et chaque fois ça marche, je raconte mon histoire et puis les enfants la suivent de bout en bout. Et ça étonne très fort les instituteurs et les institutrices, c'est la langue du cœur.
Dorme un petit caca, ma petite mouche, ma gros rochin.
Bien d'autres associations et artistes défendent le Picard. La liste est longue. Citons par exemple Danny Boone ou Renault. Retenons aussi l'initiative des communes françaises d'Aulnois, des Valenciennes et de Prézeau qui ont installé des panneaux bilingues avec le nom Picard de leur commune. Et puis, saviez-vous aussi que les orodateurs lillois parlent Picard? Un bouton langue donne le choix entre l'anglais, le néerlandais et le ch'ti. Enfin, le mot carabistouille, qui signifie blague, histoire, bobard, vient d'être admis dans le Petit Robert 2008. Quel honneur fait à un mot Picard. L'année dernière, c'est le mot karcher qui était entré dans le dictionnaire. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.
Merci, ma garçon. Eh ben, c'est ça qui est important, hein?
Ah ouais?
Oui, allez, adé, hein.
Adé.
Un reportage de la RTBF en Belgique où demeure donc le sentiment qu'il faut se battre pour sauver la langue picarde. Nous allons maintenant en Italie où l'état d'esprit n'est pas du tout le même puisque les langues régionales y sont bel et bien vivantes et couramment utilisées comme nous l'explique notre correspondant Laurent Morino.
Parce que le pays a été unifié tardivement au 19e siècle mais aussi et peut-être surtout parce que le développement économique de la péninsule à travers les âges, notamment depuis le Moyen-Âge, a renforcé les identités locales en développant d'importants de citer, l'Italie présente un paysage linguistique particulièrement riche. Riche en idiomes, influencé parfois par la proximité des frontières avec la France ou avec l'Autriche, riche en dialectes, de Gênes à Palerme, en passant par Venise, Florence, Rome ou Naples, sans parler de la Sardaigne, chaque région, presque chaque ville, conserve aujourd'hui encore un parler régional très dynamique. C'est le cas bien sûr du napolitain, qui a cultivé par la chanson napolitaine et la littérature une langue très recherchée. Mais c'est le cas aussi de la plupart des dialectes qui servent dans la vie quotidienne, et quel que soit le niveau du locuteur, à exprimer avec beaucoup de vigueur des situations, à faire aussi de l'humour. Rome, la capitale, n'a donc jamais écrasé les langues régionales italiennes, sauf peut-être, et sans véritable lendemain, durant les 20 ans de fascisme. Et pour cause, c'est en Toscane et non à Rome qu'est né avec Dante le bel italien. Mais si la politique n'a jamais véritablement homogénéisé la façon de parler des Italiens, la télévision, elle, depuis 50 ans, a tout de même unifié linguistiquement le pays, ce qui n'empêche pas les jeunes lycéens italiens, lorsqu'ils voyagent dans la péninsule, aujourd'hui encore, de découvrir sans cesse de nouvelles expressions.
La première.
Radio Prague,
RFI,
Deutsche Welle.
Où le brouhaha et les bousculades rendent la progression difficile. A fortiori, lorsqu'on souffre d'un handicap, les gares ne sont généralement pas très accueillantes. Il est donc indispensable que des équipements spécifiques soient mis en place. C'est ce qui a été fait dans la plus grande gare de Berlin qui vient de recevoir le label « Sans barrières ». Un label qui officialise le statut de la première gare allemande entièrement accessible aux handicapés. C'est un reportage de Julien Méchaussier de la Deutsche Welle.
La Berliner Hauptbahnhof, la gare la plus moderne du monde. C'est du moins ce qu'indiquent des affiches placardées tout au long des trois étages du bâtiment inauguré en 2006. Une modernité qui s'exprime par une architecture tout en verre, une galerie marchande imposante, mais également des aménagements spécifiques pour l'accueil des personnes handicapées. Burkhard Aller est porte-parole de la Deutsche Bahn pour le nord-est de l'Allemagne.
Nous nous trouvons à l'accueil principal de la gare. Il y a un guichet qui a été spécialement aménagé pour les personnes handicapées. Avec une chaise roulante, on peut atteindre directement le guichet sans contrainte. Le bureau a été également abaissé pour que le voyageur puisse obtenir le service recherché en étant à la même hauteur que l'employé. Et on retrouve la même chose pour les guichets automatiques qui ont été également abaissés.
Un autre guichet permet à l'employé d'amplifier le niveau de sa voix pour se faire comprendre des malentendants. Et dans une gare qui possède 3 niveaux, l'aménagement des ascenseurs a bien sûr été au centre des préoccupations.
On peut voir ici, pour les personnes en chaise roulante, les boutons d'appel de l'ascenseur qui sont à une hauteur réduite. Pour aider les aveugles et les malvoyants, les touches sont aussi inscrites en braille. Et une fois qu'on a appuyé sur la touche, comme vous venez de l'entendre, une voix indique là où l'ascenseur va vous mener.
L'obtention du label sans barrière et les aménagements qui l'ont précédé ont fait l'objet d'une concertation avec différentes associations d'handicapés. Klaus Behling fait partie de l'organisation berlinoise des aveugles et des malvoyants. Il s'est impliqué dans cette coopération et se montre satisfait de certaines améliorations.
L'architecte voulait au départ ériger un escalier en plein milieu de cette salle, sans démarcation, pour l'esthétique de la chose. Et une personne aveugle ou bien malvoyante aurait donc très bien pu se cogner la tête dans ces escaliers. Car sans obstacle qui signifie la présence de l'escalier, cela peut devenir dangereux. Nous nous sommes alors manifestés par le biais de notre association pour que ce projet ne se réalise pas, ce qui a été le cas.
Et quand Klaus Behling veut prendre le train, il arrive à trouver facilement le bon quai et la bonne voie.
Ici, je peux lire quai numéro 5 sur la droite et quai numéro 6 sur la gauche. Quand je prends les escaliers, je sais que je vais retrouver ces indications en braille, situées en bas et en haut de la rampe, et que je vais pouvoir m'orienter de cette façon. C'est bien sûr un aménagement très positif. Cette marque signifie que je peux bifurquer. Elle m'indique la présence soit d'un escalier, soit d'un ascenseur. Je continue dans cette direction, et là, je comprends que c'est un ascenseur.
Une gare modèle, en somme, qui en Allemagne servira d'exemple pour l'aménagement d'autres structures qui accueillent du public.
Des Européens comme les autres.
Jeunes européennes.
Et comme promis, notre nouveau rendez-vous plus particulièrement destiné donc aux jeunes Européens avec des informations pratiques concernant les voyages, les loisirs ou plus sérieusement le travail et les études comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour nous en parler, nous accueillons Madeleine Leroyer. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Madeleine, vous allez nous éclairer sur ce qu'on appelle le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. La formule n'est pas très explicite, mais vous allez nous aider.
Oui, c'est un tableau comparatif des qualifications. Donc, en fait, un nouvel outil au service de la mobilité professionnelle en Europe. On le sait, la libre circulation des personnes, c'est un pilier de l'Union européenne. Mais si vous pouvez voyager très facilement, travailler, c'est une autre affaire. De l'aveu même du commissaire européen à l'éducation et à la formation, Yann Figel, les citoyens européens se heurtent trop souvent à des obstacles lorsqu'ils veulent travailler à l'étranger.
Alors, de quel style d'obstacle s'agit-il ?
Ça peut être la non-reconnaissance du diplôme, des problèmes de validation des acquis, quand ce ne sont pas tout bonnement des restrictions à l'entrée sur le marché du travail pour les travailleurs des derniers pays entrés dans l'Union européenne. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des références communes. Et l'intérêt de ce cadre européen des compétences, ce CEC, c'est qu'il se base sur ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, et non pas sur le système national dans lequel vous avez obtenu votre diplôme. Donc, on oublie les étiquettes, diplôme universitaire, technique, DUT, gestion et comptabilité, et on se concentre sur vos savoir-faire.
Et ça concerne simplement l'enseignement supérieur ?
Non, c'est justement le premier instrument à couvrir l'ensemble des domaines de formation, donc l'enseignement supérieur bien sûr, la formation professionnelle, mais aussi la formation continue pour adultes. Donc en résumé, ce tableau de correspondance, c'est un grand traducteur de CV à chaque niveau de compétence, et il y en aura 8, correspondra une référence dans le cadre européen, donc salarié, étudiant, employé. employeurs, stagiaires, apprentis, tout le monde pourra se comprendre grâce à ce cadre.
Et alors concrètement, où est-ce qu'on en est? C'est déjà opérationnel?
Pas encore. Le CEC, le cadre européen des certifications, a été officiellement validé par le Parlement européen il y a un mois. Et on passe à la mise en œuvre. Concrètement, chaque pays doit maintenant créer son propre classement des compétences. C'est déjà fait au Royaume-Uni, en Irlande et ici en France. Un tableau qui viendra ensuite alimenter le système européen. Et puis autre réserve, le texte voté, c'est une simple recommandation, donc pas d'obligation légale. Et on touche ici finalement au cœur du problème, la souveraineté des États membres sur le domaine de l'éducation leur est garantie par le traité de Rome.
Et les échéances alors ?
Alors, première étape vraiment concrète, 2012, toutes les nouvelles formations devront mentionner la correspondance européenne. Et pour les formations existantes, alors c'est un peu le flou. La commission à l'éducation et à la formation indique que ce sera au candidat de se documenter lui-même pour trouver son équivalence européenne et la faire valoir sur son CV. À noter quand même, pour se rassurer, que la Confédération européenne des syndicats surveille de très près la mise en place de ce système, car elle y voit le premier vrai pas vers la création d'un marché européen de l'emploi.
Alors en attendant 2012, que faire pour ceux qui veulent partir maintenant ?
Et il faut exploiter à fond les outils qui existent déjà. J'ai nommé l'Europass. Vous téléchargez sur internet un CV standardisé et un passeport des langues. Un passeport qui permet de détailler assez largement vos compétences linguistiques, votre formation, vos expériences dans les pays correspondants. Et puis vous avez des exemples très concrets qui permettent de vous situer. Est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation, de faire un exposé, un discours, une conférence.
Et tout ça se retrouve bien sûr sur internet. Vos adresses du jour, Madeleine ?
Alors pour l'Europass, www.europass-france.org avec toutes les instructions pour bien remplir ce CV européen. Et puis une fois que c'est fait, direction le portail des annonces d'emploi dans l'Union Européenne. Oui, ça existe. http://europa.eu/EURES avec à ce jour plus +1 350 000 offres d'emploi disponibles et classées par pays.
Voilà autant d'adresses que vous pouvez retrouver sur le site de RFI, www.rfi.fr, à l'émission Accent d'Europe. Merci Madeleine et à bientôt.
À bientôt.
Que faire, que voir, où aller, à Londres, Vienne ou Barcelone? Pour vous aider à vous faire une idée, nous vous proposerons désormais chaque jour une escale dans une grande ville européenne. Et nous commençons aujourd'hui par Prague, d'où nous appelle Christine Dupré pour nous parler d'un club alternatif à découvrir.
Bratislava Rišta, c'est un nom imprononçable pour un lieu presque introuvable, en haut d'une petite rue en pente dans le quartier très touristique de Malastrana et pourtant bien à l'écart des foules. Bratislava Rišta, c'est un club adossé. C'est un restaurant où vous pourriez voir demain un défilé de travestis, participer un autre jour à une dégustation de vin bulgare ou assister le 18 avril prochain à un concert du groupe français Electric Bazar Company. Mais c'est surtout un lieu à part. En 1840, les artisans de Prague en ont fait le siège de leur association qui voulait reprendre les usages des confréries de métiers du Moyen-Âge. Balachnitska Rišta devint leur club où l'on pouvait se retrouver pour parler affaires, manger et écouter de la musique loin des cafés guindés du centre-ville. Et la tradition a survécu à tout, y compris au communisme. Aujourd'hui, derrière de lourdes tentures rouges, des hommes et des femmes en costume traditionnel vous servent une cuisine simple et bonne. Ils s'adressent les uns aux autres par leur nom de métier. Beaucoup d'apprentis dans diverses professions exercent un jour des fonctions au Balachnitska Rišta. Pour rendre le lieu encore un peu plus singulier, l'association des artisans a des liens avec un ordre de chevalerie écossais. Il se réunit tous les mardis, le club est alors fermé au public et réservé à des hommes en kilt. Avec tout cela, rien d'étonnant à ce que les concerts et autres spectacles ne s'y passent pas comme ailleurs. Entre quelques tables réservées longtemps à l'avance par des groupes d'amis, les spectateurs se pressent, souvent déguisés. Il n'est pas rare d'y rencontrer un Lucifer, une Marie-Antoinette ou un Lénine. Les serveurs passent d'un groupe à l'autre, avec sur leur plateau des chopes de Sviani, l'excellente bière locale. Quand en fin de soirée, on redescend vers le pont Charles et sa foule, on se demande parfois si on n'a pas rêvé.
C'était Accent d'Europe, une émission coproduite aujourd'hui par RFI, la Deutsche Welle et la RTBF avec le soutien du programme Euranet. Accent d'Europe, une émission réalisée par Benjamin Availlou et mise en onde par Thomas Ferrière. Demain, vous retrouverez Laurent Berthaud pour une émission consacrée notamment à la recrudescence de la tuberculose dans plusieurs pays d'Europe.